Alors, dans la foulée des attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris, l'écrivain algérien Kamel Daoud, de passage à Montréal, a affirmé, et je le cite, « L'intolérance est devenue une religion qui fait de plus en plus d'adeptes. » Auteur de morceaux contre-enquête, Daoud tient pourtant lui-même un discours très critique face aux excès de la religion. Dans son roman où il donne une voix et un nom à l'arabe de Camus, il fait dire à Haroun, narrateur et frère de Moussa, donc Moussa est le nom qu'il donne à l'arabe tué dans l'étranger, « J'ose te le dire, j'ai en horreur toutes les religions, toutes, car elles faussent le poids du monde. » Fin de la citation. Il est sans doute injuste de citer une phrase d'une œuvre littéraire et de l'attribuer à son auteur, mais récemment, l'écrivain est lui-même allé plus loin que son personnage, avec des propos qui ont créé une polémique. Commentant les violences sexuelles qui ont eu lieu à Colombe dans la nuit du 31 décembre 2015, Daoud a parlé, et je le cite, du rapport malade à la femme, au corps et au désir dans le monde arabo-musulman. Après ses propos parus dans Le Monde en janvier 2016, l'écrivain persiste et signe dans un article publié dans le New York Times en affirmant que ses agressions sexuelles par des réfugiés font découvrir au grand public de l'Occident que, je le cite encore, dans le monde musulman, le sexe est malade. On le sait, un groupe d'intellectuels et de plusieurs disciplines, donc historiens, sociologues, anthropologues, politistes, etc., mais pas de littéraires, ont vivement réagi aux propos de Daoud, qui l'ont accusé et l'ont accusé de recycler les clichés orientalistes les plus éculés, tout en nourrissant les fantasmes islamophobes. S'il condamne le racisme et l'intolérance, Daoud n'est donc pas à l'abri des accusations d'islamophobie. Sa situation n'est pas étrangère à celle de son compatriote Boualem Sansal. Tous deux sont des écrivains qui publient en France, mais qui vivent toujours en Algérie, et tous deux ont reçu des menaces de mort d'islamistes de leur pays. Donc, Kamel Daoud était la cible d'une fatwa émise par un imam salafiste depuis 2014, donc il a gagné le procès contre cet imam tout récemment. Et Sansal a été limogé en 2003, donc après l'apparition de son roman « Dis-moi le paradis », qui était son troisième roman. Alors, donc, Boualem Sansal, qui était haut fonctionnaire pour le ministère de l'Industrie, et Boualem Sansal, qui aussi dit qu'il reçoit régulièrement des menaces de mort, des insultes, etc. Et en particulier, depuis 2008 et 2009, donc au courant des années 2008-2009, suite à l'apparition du Village de l'Allemand. Alors, je reviendrai sur ce roman-là. Donc, présenté pour le Goncourt 2015 pour son dernier roman, 2084, La fin du monde, comme l'avait été Kamel Daoud pour Meursault contre enquête en 2014, Boualem Sansal a lui aussi finalement vu le prestigieux prix lui échapper, remportant par ailleurs le grand prix du roman de l'Académie française, ex aequo avec Eddy Kadour pour Les prépondérants. Dans le cas de Sansal, parce qu'avec Kamel Daoud, c'était assez serré, c'était assez juste. Dans le cas de Sansal, sa fable, et ce sont les mots des académiciens du Goncourt, sa fable politico-religieuse féroce a été jugée islamophobe par certains académiciens du Goncourt. Donc, on remarquera que ces deux romans ont pour hypothèse des œuvres canoniques de la littérature européenne. Daoud rend hommage à l'étranger en forme de réplique, tandis que Sansal reprend le schéma de roman d'anticipation tel que pratiqué par George Orwell dans 1984 pour dénoncer les totalitarismes. Si Michel Houellebecq a imaginé, donc, dans Soumission, que la France sera dirigée par un président du parti La Fraternité musulmane en 2022, Sansal va plus loin dans son imagination que l'écrivain français, puisque 2084 serait l'année de la fin du monde, comme l'annonce son sous-titre. De fait, l'empire abyssin, régi par le prophète Abi, et on y parle la bilangue, incarne le monde, un monde totalitaire où chaque mouvement est surveillé, aucune pensée libre ou personnelle n'est permise, et où tous les habitants sont soumis à un seul dieu, Yola. À la différence du roman de Houellebecq, dont le titre met l'accent sur la soumission de l'État français devant les islamistes, Allah n'est pas explicitement mentionné dans 2084, pas plus que la religion musulmane, mais il est clair, comme l'a confirmé Sansal, qu'il s'agit d'un scénario inspiré par la montée de l'islamisme un peu partout dans le monde. Ma communication voudrait explorer les discours de tolérance et d'intolérance face à la religion à partir de l'œuvre de Boualem Sansal et en particulier de deux de ses romans, donc je vais m'attarder en particulier sur Le Village de l'Allemand ou Le Journal des Frères Schiller et également un peu sur 2084, La fin du monde, mais bon, il y a des limites de temps, mais on sait quelques restrictions au niveau de l'analyse textuelle. Il ne s'agira pas de faire le procès de l'auteur de l'accuser d'islamophobie. Sanson se dit lui-même non pas islamophobe, mais islamistophobe, mais plutôt d'interroger une œuvre qui flirte avec le discours catastrophique d'intolérance et qui, surtout pour son dernier roman, a connu un immense succès. Hein, au Québec, ici, je pense qu'on peut presque dire que Boileau Sancerre était inconnu hein, avant 2084, alors qu'il était déjà connu pour Le village de l'Allemand et dès son premier roman, Le serment des barbares en France et en Algérie d'ailleurs. Boileau Sancerre est d'ailleurs conscient que 2084 peut se prêter à toutes les manipulations et utilisations et que, par exemple, les gens de l'extrême droite peuvent dire, et je le cite, « Regardez, vous pensez qu'on est raciste? Regardez, c'est un Algérien de culture musulmane qui dit ça. » Ainsi, l'auteur sait que ses romans peuvent servir d'armes aux adeptes de cette nouvelle religion, pour reprendre le terme de Kamel Daoud, qu'est l'intolérance, mais n'en ressent pas moins la nécessité dans ses romans, autant que dans ses essais et dans ses entretiens, de débattre des problèmes que soulève l'islam d'aujourd'hui. Faut-il voir dans ses écrits un plaidoyer en faveur de l'intolérance, comme l'a fait le philosophe Slavoj Žižek au sujet du multiculturalisme, c'est-à-dire une dénonciation des fausses tolérance qui sert davantage aux islamistes qu'à la majorité des musulmans? Ma réflexion tournera autour de questions complexes, délicates, qui rendent poreuse la frontière entre tolérance et intolérance. Rappelons à cet égard que l'étymologie même du mot tolérance appelle implicitement son contraire. Tolérer, c'est supporter, endurer avec plus ou moins de patience quelque chose de désagréable, et tolérer quelqu'un, c'est admettre sa présence, mais à contre-cœur. Dans Plaidoyer en faveur de l'intolérance et violence, 6 réflexions transversales, Slavoj Žižek critique vertement le multiculturalisme libéral, qu'il considère être une idéologie qui pratique et encourage, l'expression est de Žižek, la tolérance répressive, c'est-à-dire une tolérance qui ne tolère pas l'autre, qui ne tolère l'autre que lorsqu'il n'est pas le vrai autre, mais un autre aseptisé. Donc aseptisé, le mot de Slavoj Žižek. Dit autrement, la tolérance serait, pour reprendre la thèse de l'universitaire américaine Wendy Brown, dont s'inspire largement Žižek sur la question, une façon d'incorporer, de réguler l'autre menaçant, l'autre toxique, à l'intérieur même du corps social politique. Brown souligne à cet égard donc également que la tolérance est un concept, un discours de pouvoir qui permet dans nos sociétés, qui permet à nos sociétés occidentales de nous distinguer d'autres sociétés par notre supériorité. Nous sommes tolérants, par conséquent civilisés, contrairement à vous, les barbares, les intolérants. Dans sa charge contre le multiculturalisme, qui est selon lui une forme de racisme désavoué, de racisme dissimulé, Žižek pourfend du même souffle le politiquement correct de nos sociétés libérales en affirmant, avec un brin de provocation qui lui est propre, c'est bien le paradoxe de la tolérance dans son expression la plus pure. Jusqu'à quel point la tolérance devrait-elle tolérer l'intolérance? Fin de la citation. Dans Gouverner au nom d'Allah, islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe, un essai donc écrit du point de vue d'un écrivain qui aborde le sujet d'une manière littéraire, au dire de l'auteur, Boileau Sancerre a aussi critiqué le politiquement correct qui empêche tout débat. Et je le cite. Il faut noter que relativement à la question du débat sur l'islam, la liberté de parole est également malmenée en Europe, où le simple énoncé du mot islam bloque toute discussion ou la dirige vers les lieux communs du politiquement correct. Plus loin, Sancerre renchérit, un peu partout et paradoxalement dans les pays de vieille démocratie, le politiquement correct, inspiré par la peur ou le souci de ne pas exacerber les tensions entre les communautés, fait des ravages, il empêche le vrai débat et l'émergence d'un contrepoids aux intimidations des uns et des autres. Fin de la citation. Et entre parenthèses, Boileau Sancerre a défendu Kamel Daoud dans cette polémique contre les universitaires et il a parlé du politiquement correct comme étant du terrorisme. Mentionnant en passant que Sancerre a mis en exergue à son essai « Gouverner au nom d'Allah », la citation de Karl Marx, donc cette citation connue, selon laquelle la critique de la religion est la première condition de toute critique. Dans ce même livre, Sancerre avance également que le communautarisme, terme privilégié en France et qui pourrait être rapproché du mot multiculturalisme utilisé plus couramment en Amérique du Nord, quoique bon, l'un est plus péjoratif que l'autre et le multiculturalisme est une politique officielle au Canada notamment. Donc, le communautarisme favorise selon lui l'islam. Et je le cite. Dans les faits, le communautarisme est encore plus contraignant car on se regroupe entre membres d'un même rite, d'un même pays, d'une même tribu, d'une même fratrie, ce qui renforce d'autant le pouvoir de contrôle et de coercition du groupe sur l'individu. Dans ces communautés, le seul choix offert aux jeunes est la soumission ou la révolte. Si Sainte-Sœur parle de ces communautés créées en France en termes modérés dans cet essai, son roman Le village de l'Allemand ou le journal des frères Scheller, publié en 2008, donc avant gouverner au nom d'Allah, pousse jusqu'au bout sa dénonciation du communautarisme en offrant un scénario qui frôle et qui est même dans l'Apocalypse. En effet, dans ce roman, non seulement l'islamisme est comparé au nazisme, mais les banlieues françaises sont des camps de concentration. Dès son premier roman, Le serment des barbares, Sainte-Sœur critiquait déjà sévèrement le pouvoir algérien et les islamistes, mais Le village de l'Allemand est le premier et seul roman dans lequel il traite de plus près des effets de l'islamisme dans un pays européen, en l'occurrence en France. Le récit fait alterner deux voies narratives, celle de deux frères, donc Rachel et Malrich, de mère algérienne et de père allemand. Donc jusqu'à l'assassinat de leur père par le groupe armé islamique, donc le GIA, les deux frères ignoraient que leur père est un ancien officier nazi, donc responsable de la mort de milliers ou peut-être de millions de juifs à lui seul. Et donc ils font cette découverte à la mort de leurs parents qui sont assassinés par le groupe armé islamique. Pour eux et pour les habitants du petit village d'Aïn Derb, donc, leur père, converti à l'islam, était un mujahid, un héros de la guerre d'indépendance. La narration débute avec les phrases de Malrich, le frère cadet, qui, après le suicide de Rachel, décide de publier leurs journaux retouchés par une ancienne professeure du lycée de Rachel. En exergue, Malrich remercie cette prof qui a bien voulu réécrire son livre en bon français et affirme d'entrée de jeu, et je le cite, elle dit qu'il y a des parallèles dangereux qui pourraient me valoir des ennuis. Je m'en fiche, ce que j'avais à dire, je l'ai dit, point, et je sais. Marie Scheller. À travers cette stratégie paratextuelle, Boualem Sainte-Sœur avertit par l'entremise de la voix de Malrich les lecteurs, donc il avertit les lecteurs, mais révèle surtout le fait qu'il anticipe les objections. C'est dans le journal de Malrich, donc Malrich est très différent de son frère, hein, donc c'est un jeune qui fait pas grand-chose, alors que son frère, avant d'avoir perdu sa femme, sa femme, son travail, sa santé, sa raison, suite à la découverte de l'histoire de son père, son frère était un success story hein, de l'immigration maghrébine. Alors, c'est dans le journal de Malrich que les parallèles dangereux reviennent de manière récurrente. Au début, la cité où il vit, donc séparée de Paris par un mur, des barbelés, ce sont ses mots, est en danger de devenir un camp d'extermination. C'est à cause d'un imam extrémiste que Friedrich appelle le SS. Un peu plus loin, après avoir précisé que les résidents de la cité sont comme des déportés qui attendent que le temps passe, l'imam est comparé à Hitler, à deux reprises au moins. Lorsque Friedrich se trouve à l'aéroport d'Algérie, il nous dit, et je le cite, à côté de cet aéroport, ma banlieue est une maison de retraite. On a le temps de s'ennuyer. Je devrais dire on avait, parce que depuis l'arrivée du nouvel imam et du nouvel émir, le quatrième Reich s'annonce à pas de géant. Fin de la citation. Dans sa lettre au ministre de l'Intérieur d'Algérie, il écrit également, à ce titre, à ce train, la cité sera bientôt une république islamique parfaitement constituée. Et vers la fin du roman, le jugement que fait Malrich de sa banlieue tombe, sans appel, à la fois prévisible et dérangeant. C'est déjà un camp de concentration. Il ne manque que des chambres à gaz et des fours pour passer à l'extermination. Dans sa découverte de la Shoah, curieusement, Malrich, qui est pourtant arrivé en France à l'âge de 8 ans, ignorait tout de ce génocide historique avant la mort de Rachel. Donc, il aimait même cette hypothèse que son frère se serait suicidé, non pas parce qu'il n'en pouvait plus de vivre avec l'horrible héritage du père, hein, ce legs insupportable, mais à cause de la prise de pouvoir assurée des islamistes. Et donc, je le cite, « Quand mes parents et leurs voisins du village ont été égorgés par les islamistes, Rachel a commencé à réfléchir. Il a compris que l'islamisme et le nazisme étaient du pareil au même. Il a voulu voir ce qui nous attendait si on laissait faire comme on a laissé faire en Allemagne, à Kaboul ou en Algérie, où les charniers islamistes ne se comptent plus, comme on laisse faire chez nous, en France, où les gestapos islamiques ne se comptent plus. » Au bout du compte, ça lui a fait tellement peur qu'il s'est suicidé. Sainte-Sœur n'est évidemment pas le premier écrivain francophone à faire des parallèles avec le nazisme. Il y a déjà plus de 50 ans, Aimé Césaire, dans son virulent discours sur le colonialisme, fait le rapprochement entre les procédés colonialistes et le nazisme. Le contexte est pourtant différent. Césaire, qui répondait à l'insistance d'une revue de droite qui voulait qu'il fasse l'apologie de la colonisation, oui, qui croyait qu'il allait faire l'apologie de la colonisation, je ne sais pas où, quelle planète il vivait, voulait provoquer un débat sur les atrocités perpétrées contre les peuples de couleur à une époque où la France refusait toujours de reconnaître la colonisation et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Sansal, pour sa part, écrit un roman où la montée de l'islamisme fait peur, avec raison peut-être, mais une peur qui alimente les réflexes xénophobes et islamophobes. Comme l'a révélé Mireille Rosello, la comparaison est problématique pour deux raisons. Et je cite ici Mireille Rosello. Le geste qui consiste à comparer les conditions de banlieue française aux camps nazis est aussi provocateur d'un point de vue quantitatif que d'un point de vue qualitatif. Le parallèle risque d'aliéner et ceux qui redoutent l'islamophobie et ceux qui souffriront de voir la mémoire de la Shoah galvaudée au profit d'une prise de position politique sans rapport avec le génocide. Fin de la citation. Oh là là! Dans Violence 6, réflexion traversale, Zizek analyse la récupération de l'Holocauste dans le contexte israélo-palestinien. D'une part, il montre les pièges de ce genre de comparaison, puisque l'Holocauste était un crime incomparablement plus grave, la comparaison pouvant ainsi donner lieu à une instrumentalisation éhontée, à une instrumentalisation obscène. D'autre part, Zizek affirme, l'Holocauste ne devrait jamais être utilisé dans le but de justifier, légitimer une mesure politique, mais au contraire, afin de délégitimer certaines de ces mesures et imposer les limites à nos actes. On a le droit de condamner les actes lorsqu'ils témoignent d'un orgueil dont l'Holocauste fut l'expression la plus extrême. Fin de la citation. En ce sens, on pourrait penser que Sansan recourt à une utilisation légitime de la Shoah en comparaison nazisme et islamisme. Mais alors que Zizek souligne que l'Holocauste fut l'expression la plus extrême, Sansal écrit dans Le village de l'Allemand, et je cite, « Est-ce que des choses comme ça peuvent se reproduire? Je me dis que c'est impossible, mais quand je vois ce que ces islamistes font chez nous et ailleurs, je me dis qu'ils dépasseront les nazis si un jour ils ont le pouvoir. Ils sont trop pleins de haine et de prétention pour se contenter de nous gazer. » Fin de la citation. Certes, en tant qu'écrivain, Sansal a toute la liberté d'imaginer ce qu'il veut. Le problème vient du fait que dans ses divers entretiens, l'auteur a exprimé des propos qui rejoignent ceux de Marèche. Alors, puisqu'on me dit que je dois me dépêcher, je vais le faire. Je voulais toutefois mentionner un aspect, donc avant d'aborder brièvement la fin du monde, 2084, la fin du monde. Donc, dans ce roman-là, l'islam n'est pas mentionné, mais il est quand même question de la guerre sainte, il est question de la fraternité, de la juste fraternité, qui est une référence, bien sûr, aux frères musulmans. Alors, je voulais mentionner un aspect que Boualem Sansal mentionne dans « Gouverner au nom d'Allah ». Alors, Sansal énumère les quatre réactions face à l'islam au cours des 30 dernières années. Alors, il dit que l'islam a d'abord été vu avec sympathie, et ensuite s'est installée une certaine inquiétude. Et ensuite, l'inquiétude a fait face à une panique, et en ce moment, on est dans la colère, la confrontation face à l'islam. Donc, c'est ce que Boualem Sansal fait. Donc, c'est dans un contexte de colère face à l'islam qu'est publié 2084, un roman qui place en exergue cette phrase, et je le cite, « La religion fait peut-être aimer Dieu, mais rien n'est plus fort qu'elle pour faire détester l'homme et haïr l'humanité. Hein? » Donc, ici, encore une fois, on a un avertissement, et on aura compris que l'avertissement est contre cette religion dans ce roman-là. Alors, donc, pour résumer ce roman, et on pourrait en discuter un peu plus longuement, donc, Atti, le personnage principal, quitte le sanatorium et il découvre, lors de son voyage vers sa maison, chez lui, des ghettos de renégats. Et puis là, il y a un doute en sortant du sanatorium, à savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre dans une dictature, dans un système totalitaire, etc. Donc, un peu comme Malrich qui, à la mort de son frère, découvre qu'il vit dans un camp de concentration, entre guillemets, Atti fait la découverte d'un système totalitaire dans lequel il vit et un système où tout est régi par la religion. Donc, vous voyez, c'est vraiment un roman où la thèse est très claire et il y a une phrase qui est particulièrement éloquente à cet égard, vers la fin. « La religion, c'est vraiment le remède qui tue. » Fin de la citation. Alors, je vais conclure. Dans « Gouverner au nom d'Allah », Sansal prend soin de dénoncer l'amalgame entre islam et islamisme. Et je le cite, « Le plus préjudiciable des amalgames pour tous est de confondre l'islam, religion respectable et brillante s'il en est, et l'islamisme, qui est l'instrumentalisation de l'islam dans une démarche politique, sinon politicienne, critiquable et condamnable. » Mais l'auteur, fin de la citation, « Mais l'auteur lui-même, par-delà son talent d'écrivain, n'entretient-il pas cette confusion? » en 2011 à la question de savoir d'où vient cette phobie de l'islam. Lui qui fustige l'islam et les imams, Satan évoque son premier contact avec la religion lors du décès de son père, hein, son père qui est mort dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 5 ans, pour ensuite affirmer « La religion me paraît très dangereuse par son côté brutal, totalitaire. L'islam est devenu une loi terrifiante qui n'édicte que des interdits, bannit le doute et dont les zélateurs sont de plus en plus violents. Il faudrait qu'il retrouve sa spiritualité, sa force première. Il faut libérer, décoloniser, socialiser l'islam. » Cette affirmation ne contredit pas-t-elle l'amalgame contre lequel il nous met en garde d'en gouverner au nom d'Allah? Ne dit pas-t-elle qu'en cette ère de mondialisation souvent décriée par Sansal, l'islam est devenu synonyme d'islamisme et que les musulmans sont donc des islamistes? Dans son beau roman Araga, Sansal écrit « Le salut est dans la culture ». Or, la question est de savoir aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, si des romans comme Le village de l'Allemand et 2084 peuvent être salutaires en cette époque, pour reprendre les mots de Zizek, de fausse tolérance. Merci.